bien, chers amis, c'est vraiment une joie, un plaisir pour ma femme et moi d'être avec vous pour ce week-end et en particulier pour ce culte, de pouvoir louer le Seigneur et surtout de louer son amour comme nous l'avons fait. C'est tout à fait réjouissant et nous sommes heureux aussi de faire un peu mieux votre connaissance. Il y a bien sûr longtemps que nous avons eu des échos de votre Église. Plusieurs fois, certains membres ont suivi les cours décentralisés de la faculté de Vaud à Lyon. Je pense notamment à un grand fidèle, Olivier Randel, que nous avons donc vu régulièrement pendant des années. Donc, il semble qu'il vous a quitté, hélas. Mais c'était vraiment quelqu'un de très, 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 très sympathique. Et puis, d'autres encore, que nous revoyons maintenant. Cyril qui vient d'introduire, que j'ai connu à Nogent, à l'Institut biblique, et puis votre pasteur aussi. Voilà, alors nous avons ce privilège dans nos institutions de formation de rencontrer bien des jeunes et moins jeunes qui se forment ainsi et que nous retrouvons après dans les églises ici ou là, et c'est bien sûr une grande joie pour nous. Donc comme vous le savez sans doute, ce week-end, enfin, nous avons consacré l'après-midi d'hier à un sujet un petit peu délicat qui ne réjouit pas toujours, n'est-ce pas, celui de l'avancée en âge et la retraite, la vieillesse. Alors évidemment, ça ne concerne pas du tout un certain nombre, peut-être la plus grande majorité d'entre vous. En tous les cas, on ne veut pas trop en entendre parler, n'est-ce pas? Mais il faut en parler. Il faut en parler. Et c'est ce que nous avons fait hier après-midi. Je pense que c'était un bon moment. Pour nous, c'était un peu difficile, pour ma femme et moi, parce que c'est un sujet que nous n'avons jamais abordé. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut parler des vieux, n'est-ce pas? on s'est préparé le mieux possible, mais c'était intéressant d'avoir des échos aussi et de pouvoir partager un certain nombre d'idées à ce sujet. Alors, on devrait continuer ce matin. Alors, je ne vais pas parler du grand âge ce matin. Mais quand même, hier, nous avons soulevé le problème de la transmission de la foi. Alors, ça, c'est un terme technique. Et derrière, il y a la catéchèse. Vous voyez, en théologie, on a aussi notre langage technique. La transmission de la foi. En rapport avec l'âge qui avance, c'est comme un devoir primordial, important. Mais vous savez que la transmission de la foi, ça commence très tôt. Ça commence très tôt dans le témoignage au sein de la famille. Et puis, quand on se marie, dès qu'on a des jeunes enfants, on n'attend pas le grand âge pour essayer de transmettre à nos enfants et petits-enfants ce qui fait le cœur de notre vie, n'est-ce pas, ce qui nous motive, ce qui est tellement important pour nous. Mais la façon dont on vit l'avancée dans la vie, la façon dont on fait face aux épreuves, au haut et au bas, à toutes les surprises qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est un témoignage. Et une manière de, entre guillemets, transmettre la foi aussi. Parce que c'est la foi vécue. Alors voilà, c'est un peu ce thème que j'aimerais soulever encore ce matin en parlant de l'apôtre Paul et de deux passages dans sa deuxième épître. La deuxième épître, pardon, de Paul à Timothée, bien sûr, parce qu'il y en a bien d'autres. Vous savez que cette épître est très émouvante, parce que l'apôtre Paul se sent vraiment à la fin de sa vie. D'ailleurs, il le dit très, très clairement, n'est-ce pas? J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, il dit ça au chapitre 4 et au verset 7. Donc, il se sent proche de la fin. C'est un vieux. Cet apôtre Paul, que par ailleurs on voit si dynamique, si conquérant, il est arrivé là à la fin, il écrit à Timothée. Donc, il se sent âgé. Et ben, le grand âge, c'est pas facile pour personne, et en particulier pour lui, dans les circonstances qu'il est en train de vivre. Apparemment, il en parle quelquefois à mots couverts, quelquefois plus directement. Mais là, dans cette deuxième partie du chapitre 4 de 2 Timothée, il se sent carrément abandonné. Le verset 9, « Tâche de venir au plus tôt vers moi. » Sentiment de solitude, on a aussi soulevé hier. « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Au verset 11, il dit encore, « Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le, car il m'est fort utile pour le service. » Verset 14, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Voilà. Pour une personne âgée, se sentir abandonné, je crois que c'est ce qui est un peu de pire. Il faut faire très très attention à ça, n'est-ce pas? Nous qui sommes dans le flot de la vie, qui avons mille et une occupations, les plus anciens, eux, pensent à nous et ils aimeraient bien de temps en temps qu'on leur donne un coup de fil. Mais voilà, c'est une des difficultés aussi du grand âge. Quand Paul dit au verset 13, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus », il semble quand même un peu dans le dénuement aussi, dans les besoins matériels. Voilà la situation de l'apôtre Paul, là, dans son grand âge. Et en plus, il est dans un moment très difficile. Il semble qu'il va devoir rendre compte de sa foi, peut-être devant l'empereur, ou en tous les cas devant un tribunal païen. Vous vous souvenez de ses paroles, verset 16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, qu'il ne le en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté, fortifié, pour que la prédication soit apportée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens, et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Alors parle-t-il au propre ou au figuré? Peut-être parle-t-il au propre. Voilà sa situation dans ce grand âge, n'est-ce pas? Alors, c'est pas facile. Et la Bible ne cache rien des souffrances humaines, des difficultés, même chez ses héros, n'est-ce pas? Soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament. Mais voilà, au sein de toute cette situation si difficile qu'il vit, il y a Timothée. Voilà, il y a Timothée, son fils bien-aimé, comme il l'appelle au début de son épître. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Pourtant, c'était un célibataire, apparemment. Bon, peut-être qu'il était veuf, on ne sait pas trop. Il était seul, n'est-ce pas? Mais il avait un fils, Timothée, qu'il avait engendré, en quelque sorte, spirituellement, comme bien d'autres. Mais il était particulièrement attaché à Timothée. Et c'est intéressant ce qu'il dit de Timothée dans cet épître. Et... De la relation qu'il avait avec lui, mais surtout, puisqu'on parle de, entre guillemets, la transmission de la foi, comment il a formé Timothée, comment il lui a transmis ses valeurs qui ont fait toute sa vie, n'est-ce pas? Donc, il évoque le cas Timothée. J'aurais pu donner pour titre à ce message le cas Timothée, parce que c'était un cas. Vous vous souvenez sans doute ce qu'il est dit très 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 peu, n'est-ce pas, des paroles très brèves de Timothée dans le livre des Actes. Il a rencontré Timothée sans doute lors de son premier voyage missionnaire, là dans ce sud, un peu sud-est de la Turquie actuelle, une région de montagne, une région très très païenne. Mais il y avait dans ces villes des immigrés juifs qui s'étaient installés. Et Timothée vivait dans ce cadre-là. Je lis au début du chapitre 16 du livre des Actes. Il parvint à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec, donc d'un païen. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Timothée venait d'une famille à problème. Aujourd'hui, on parle de famille recomposée, certains disent décomposée, hélas, mais voilà, il y a toutes sortes de perturbations dans les familles aujourd'hui. C'est pas facile à vivre, c'est pas facile de s'y retrouver, mais c'est pas un problème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà cette femme juive fidèle, donc croyante, qui s'était liée avec un païen. Donc c'était un mariage mixte, entre guillemets, mais pas facile, quand on sait le contexte de l'époque, entre ce qu'était le paganisme à cette époque, notamment le paganisme grec. Relisons la première aux Corinthiens, on en aura une petite image. Et puis, cette femme juive fidèle, comment est-ce qu'elle était arrivée dans cette situation-là? On ne sait pas. Elle aurait dû normalement se marier avec un juif. Et le fait que Timothée n'était pas circoncis montre bien que c'était pas elle qui avait toujours le dessus. Autrement, elle aurait exigé que son fils soit circoncis. Voilà. Mais voilà, ces quelques mots nous montrent que Timothée était issu d'une famille un peu à problème, un cas, une difficulté. Alors, ceci dit, voyons comment Paul évoque ce lien avec Timothée, la façon dont Timothée est venu à la foi. Tout au début de l'épître, il le fait, avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour, comme toute l'atmosphère de cette deuxième épître à Timothée, si émouvante. Je lis au chapitre 1, les versets 3 à 5, il aurait été bien de pouvoir les projeter. Malheureusement, bon, je n'ai pas pu préparer un petit montage. Mais voilà, on va faire comme autrefois. Avant ces moyens formidables que nous avons maintenant, on va essayer de s'attacher au texte et à l'oral, ou à l'écrit si vous avez votre Bible. Et encore là, on a toutes sortes de traductions. Bon, on va quand même essayer de travailler comme ça. Je lis ces versets 3 à 5. « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour. Je me souviens de tes larmes. J'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de ta foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta maman Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite maintenant aussi en toi. » Voilà ces quelques paroles, il démarre son épître ainsi, et quand on parle de transmission de la foi, de chaîne, vous voyez, bien sûr, il y a le passé, il y a une tradition, il y a ceux qui nous ont précédés. On a réfléchi hier après-midi sur cette notion d'héritage, n'est-ce pas? Voilà, cet héritage qu'on essaye de préparer pour nos enfants sur le plan matériel, mais qui n'est pas, c'est pas peut-être le plus important, l'héritage qu'on transmet ainsi, n'est-ce pas? Il y a l'héritage social, il y a l'héritage psychologique, si on peut dire, mais surtout l'héritage spirituel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc, c'est cela qu'évoque Paul ici. Et tout au début, il fait comme un parallèle entre sa situation à lui et celle de Timothée. Deux situations qui étaient pourtant, en ce qui concerne le passé, très différentes. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres, avec une conscience pure. Il ne renie pas ses racines. Et pourtant, il y a un passage dans l'Épître aux Philippiens où il dit tout cela, je l'ai considéré comme de la boue afin de gagner Christ, n'est-ce pas? Mais il ne rejette pas ses racines spirituelles. Par ailleurs, il dira qu'il est pharisien, fils de pharisien, n'est-ce pas? Mais Il y a une continuité. Comme il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, lui n'a pas peur de montrer cette continuité. Il y a des racines spirituelles entre ce qui le concerne, comme il y en a aussi pour Timothée, évoqué au verset 5, n'est-ce pas? Mais il ne parle pas du contenu en lui-même, mais en quelque sorte de la qualité spirituelle ou de foi dont il se souvient, que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. Et il fera allusion aussi au verset 5, à cela, avec la foi, le souvenir qu'il a de la foi sans hypocrisie qui est dans Timothée et qui a déjà habité dans sa grand-mère et dans sa mère, vous voyez. Une question de sincérité, de droiture, n'est-ce pas? Il n'y a rien de pire que de jouer la comédie. Et on la joue facilement quand on est religieux, entre guillemets. Nous sommes ici, nous sommes tous religieux, entre guillemets, n'est-ce pas? C'est tellement facile de s'habiller comme un chrétien, d'avoir le langage qui convient, d'avoir aussi une certaine conduite qui convient, n'est-ce pas? Mais nos enfants, avec leur sensibilité extrême, et surtout, s'ils sont nos petits-enfants et qu'ils vivent avec nous 24 heures sur 24, jour et nuit, testent la sincérité de notre foi, n'est-ce pas? Alors, certains ont une foi très élaborée, très ancienne, d'autres pas toujours orthodoxes, d'autres une foi récente. On est très différents sur le plan du contenu. Mais comme c'est important que ceux que nous voudrions voir aussi suivre le même chemin, découvrir le Seigneur, naître de nouveau, puissent sentir chez nous qu'il y a quelque chose de vrai et de sincère, une foi sans hypocrisie. Je relève ce point qui ressort de ce texte alors que nous réfléchissons à ceux qui nous précèdent et à ce devoir que nous avons de la transmission de la foi. Une foi sans hypocrisie. Même dans la situation difficile qui était celle de, sans doute, de la mère et de la grand-mère de Timothée dans ce pays païen où elles avaient abouti, on ne sait pas trop comment, et après un mariage un peu particulier, n'est-ce pas? La sincérité de la foi. Voilà ce que je relève là, et aussi la qualité de relation qu'il y a entre tous ces partenaires qui apparaissent dans ces trois versets, là, tout au début de l'Épître. Vous l'avez remarqué, cette affection, cet amour qui lie Paul et Timothée, et sans doute aussi cette affection et cet amour qui liait Timothée et sa mère et sa grand-mère, n'est-ce pas? Marqué par l'intensité de la prière, je prie pour toi jour et nuit, et puis l'évocation des larmes aussi, parce que la foi, c'est pas seulement de la théologie ou une confession de foi ou un catéchisme, la foi, ça se vit profondément dans le cœur aussi. C'est extraordinaire de penser que un mot résume toute la foi chrétienne, c'est le mot amour, qui a si bien été mis en évidence au début de ce culte. C'est pas le cas dans toutes les religions, malgré tout ce qu'on en dit, n'est-ce pas? C'est l'originalité, c'est le cœur même du christianisme, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a aimés et il a prouvé son amour en donnant son Fils. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, ce qui doit être au centre de notre vie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est une relation, c'est une qualité de relation. Alors peut-être qu'on n'est pas très fort pour raconter des histoires bibliques, on n'est pas toujours au clair sur les doctrines subtiles qui nous permettraient de répondre aux questions subtiles de nos enfants, hein. Mais on peut les aimer, hein, et on peut avoir une foi sincère. C'est ce qui me semble en tous les cas ressortir de ce texte. Voilà, en passant, vous voyez le rôle des femmes dans la transmission de la foi. Dans cette situation si difficile que vivait Timothée, cette allusion à sa mère et à sa grand-mère, c'est quand même quelque chose. Dans un milieu aussi perverti, n'est-ce pas, qu'était celui du milieu païen à cette époque, on se plaint de ce que nous vivons nous-mêmes dans notre société. On tremble, on est scandalisé. Mais à ce moment-là, c'était bien pire, n'est-ce pas, où la prostitution était érigée en culte, n'est-ce pas, et où tout était banalisé, toutes les déviations sur le plan sexuel étaient totalement banalisées. Paul et Timothée, sa mère et sa grand-mère, et tous ces premiers chrétiens vivaient dans une société infiniment plus pervertie que la nôtre, n'est-ce pas. Alors, voilà, ce témoignage est vraiment très, très, très fort, n'est-ce pas. Et comme c'est important, cet amour. Je me suis souvenu de cette histoire relative à saint Augustin, n'est-ce pas. Pour nous, saint Augustin, c'était un grand saint, un grand théologien, n'est-ce pas. Mais jusqu'à sa conversion, qui est survenue assez tard, il a eu une vie totalement dévoyée, n'est-ce pas. Et sa mère était chrétienne, n'est-ce pas, la fameuse Monique. Et elle a prié pour son fils. Complètement perdu. Oh, certes, humainement, il avait bien réussi. C'était un grand intellectuel, il était professeur de rhétorique, c'était une star, n'est-ce pas, du point de vue du discours. Et il est allé jusqu'en Italie pour son enseignement, etc. Et c'est là que il a rencontré Ambroise à Milan et que il a été en contact avec la foi chrétienne et que finalement il s'est converti, mais vraiment bien bien converti. Et sa mère qui pleurait tellement sur lui a rencontré, semble-t-il, aussi cet Ambroise de Milan qui était évêque de Milan, et puis a parlé avec lui, et cet évêque aurait dit mais ce fils de tant de larmes ne saurait être perdu, n'est-ce pas. Et ça a bien été le cas. Les larmes de sa mère ont sans doute contribué aussi, en quelque sorte, à sa conversion, n'est-ce pas. Donc la qualité de relation, l'amour que l'on peut porter, même à des enfants qui se sont détournés ou qui nous font peut-être du mal, ça a du poids, ça a du poids. Et ça ressort aussi de ce texte. Alors, un autre texte dans cette épître aussi, en rapport avec ce grand problème de la transmission de la foi, qui est un devoir pour nous, pas seulement quand on a 60, 70 ou 80 ans, mais bien plus tôt, n'est-ce pas. Voilà, le deuxième texte que j'aimerais lire, c'est au chapitre 3, les versets 10 jusqu'à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. De quelles persécutions, de quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je lirai et dirai encore quelques mots des versets 14 à 16, un passage aussi qui est bien connu. Donc, si nous avons d'abord évoqué cette chaîne de transmission, cette tradition qui précède, là, c'est un petit peu, en somme, la foi vécue. Paul dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. Quand on examine toute cette liste, le premier mot fait mention de l'enseignement et le dernier des souffrances. C'est un tout. Il ne suffit pas de catéchiser, de lire la Bible en famille et d'avoir un enseignement précis, n'est-ce pas? La transmission se fait aussi au travers des souffrances. Et entre ces deux mots, vous avez les qualités, les vertus, entre guillemets, fondamentales de la vie chrétienne. Mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions et mes souffrances. Voilà, c'est un évangile totalement vécu, n'est-ce pas? Une transmission complète, pas seulement par des leçons, mais aussi dans la vie de chaque jour, où l'on peut montrer que la foi, c'est aussi une conduite particulière, des décisions à prendre, de la patience, de l'amour, de la persévérance, une foi vécue. C'est important dans l'Église, mais où c'est le plus difficile, c'est sans doute au sein de la famille. Et il faut toute la grâce de Dieu pour vivre sincèrement sa foi dans le cadre de la famille ou relationnel. Je pense que ce texte est aussi pour ceux qui sont célibataires, par exemple, ou qui sont seuls maintenant, parce qu'on a tous un réseau et des personnes que Dieu nous confie, n'est-ce pas? Une transmission totale, n'est-ce pas, à travers les événements de chaque jour. Et voyez comment Paul insiste après sur la souffrance. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium et à Lystre? Si on relit ces chapitres 13 et 14 du livre des Actes, et qu'on essaye de voir ce qu'il y a derrière des phrases quelquefois très brèves, c'est assez extraordinaire ce que Paul a souffert, et Timothée en a sans doute été le témoin. Il y a le chapitre 13, cette magnifique prédication à Antioche de Pisidie, n'est-ce pas? Mais à la fin, la jalousie des Juifs qui soulèvent la foule contre Paul, et Paul et ses compagnons sont obligés de fuir la ville. Quand nous étions au Tchad, ma femme et moi, il y a bien des années, je me trouvais au marché, et puis j'ai tout à coup entendu des cris, un grand mouvement de foule, et c'était un jeune garçon qui avait été pris en train de voler à un étalage, et alors là, vous savez, on n'appelle pas la police, hein, tout le monde se révolte en quelque sorte, mais c'est affreux, une foule, n'est-ce pas, qui poursuit quelqu'un pour lyncher cette personne, n'est-ce pas? Ça, c'est terrible d'assister à un spectacle pareil. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul et Barnabas à Antioche. Et ensuite, dans la ville suivante, à Iconium, là, ils ont échappé de peu au lynchage et à la lapidation, n'est-ce pas? À Antioche, c'était la menace. À Iconium, ils y étaient presque, ils ont pu échapper, et à Lystre, là, ils ont été lynchés. Ils ont été traînés, Paul a été traîné en dehors de la ville, et on l'a laissé pour mort. Et les gens sont partis. Mais en fait, les disciples, les frères et les sœurs sont arrivés, ont entouré Paul, et miraculeusement, Paul s'est relevé, et il est rentré dans la ville, et bien sûr, il a dû partir le lendemain. Voilà ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Est-ce qu'il rappelle là, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas avoir honte de nos souffrances, des persécutions que l'on peut subir, même quelquefois de nos bas, n'est-ce pas, de nos chutes, des moments difficiles. Nos proches, nos enfants en particulier, en sont témoins. Et c'est justement dans ces situations-là que la qualité de la foi, la sincérité de la foi, va pouvoir se prouver, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'éducation sans souffrance. Même le Seigneur Jésus a dû apprendre l'obéissance. Quel mystère, par les choses qu'il a souffertes, nous dit l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? On sait qu'il ne faut pas élever nos enfants dans du coton. Ce n'est pas leur rendre service, n'est-ce pas? Au contraire, si on leur apprend à subir les frustrations, à faire face aux difficultés, on leur rend un grand service, n'est-ce pas? Et aussi à obéir. Alors ça, c'est le plus difficile. Pas facile d'obéir, n'est-ce pas? Mais la souffrance, voilà la place de la souffrance ici, dans la transmission de la foi. Ne pas avoir honte de nos propres souffrances, une foi qui coûte, ça, c'est une foi qui a vraiment de la valeur. Alors, le dernier passage, pardonnez-moi, je ne veux pas être trop long, ce sont les versets 14 à 16 qui sont bien connus. « Toi donc, Timothée, reste attaché à ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris ?» Et la transmission. « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. » Parce que toute l'Écriture est inspirée, on pourrait traduire « soufflée de Dieu », est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Donc, il y a la foi transmise, il y a la foi vécue, et il y a maintenant une foi qui est attaché à l'Écriture, à la Bible, la Sainte Bible, comme on disait, n'est-ce pas, autrefois. La place de la Bible et de l'Écriture dans la transmission de la foi. Reste attaché à ce que tu as appris, ce qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris, ça a été transmis par d'autres personnes. Et il s'agit non pas d'un système philosophique ou de valeur quelconque ou un mode de vie, mais il s'agit de la Sainte Écriture. Depuis ton enfance, voilà, la Bible n'est pas trop difficile, même pour les enfants, quelquefois ils la comprennent mieux que nous d'ailleurs, n'est-ce pas? Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, tu y es attaché. Et voyez l'importance des rapports personnels aussi. Je lisais un article d'une sociologue qui avait fait une enquête sur justement la transmission de la foi aujourd'hui dans les familles protestantes. Il ne s'agissait pas des familles évangéliques particulièrement. Et c'est quand même frappant que, d'après les résultats de cette enquête, la lecture de la Bible, les histoires bibliques sont encore à la première place dans ces familles protestantes. Et très souvent, ce sont les grands-parents qui ont un rôle important à jouer à cet égard. Ce sont eux qui, à l'occasion, avec leurs petits-enfants, racontent les histoires de la Bible, n'est-ce pas? Donc, la Bible garde là toute sa place. Et puis, le rôle des grands-parents est important. Et des parents, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, pourquoi la Bible? Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pas seulement une connaissance, mais une sagesse, n'est-ce pas? C'est-à-dire intégrée à tout le comportement, à la vie, n'est-ce pas? Et bien sûr, le but, le chemin, c'est la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? On dit que le Christ est la clé des Écritures. C'est lui qui est la clé de l'interprétation, de la compréhension de tous les textes de l'Ancien Testament, et bien sûr aussi du Nouveau Testament, et l'essentiel, c'est la rencontre avec lui pour le salut. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Des paroles à méditer en ce qui concerne notre responsabilité. Et puis ce fameux verset 16, que tous les étudiants en théologie dans nos écoles connaissent bien, c'est fondamental, c'est le verset très important concernant l'inspiration de la Bible, n'est-ce pas, sur la valeur de l'Écriture. Toute l'Écriture est inspirée. Et dans la lecture, j'ai corrigé un petit peu, parce qu'effectivement, le mot qui est employé est en rapport avec le souffle, n'est-ce pas? C'est le souffle même de Dieu, n'est-ce pas? Pas seulement une parole intellectuelle à comprendre, mais le souffle même du Seigneur. Mais elle est utile, et c'est la dimension pratique qui est mise en évidence. Elle n'est pas seulement intéressante à étudier, à comprendre, passionnante, mais elle change la vie. Elle transforme la vie. Pourquoi ? En enseignant, bien sûr, mais aussi utile pour enseigner, pour convaincre, n'est-ce pas ? C'est elle qui va nous convaincre, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui souffle dans la Bible. C'est elle qui va nous convaincre, pas toujours les discours des autres, même les prédications, mais le texte biblique lui-même. Convaincre, pour redresser, réformer la conduite, nous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. Et dans le monde de confusion où nous vivons, c'est bien utile qu'on ait quelque part des repères pour redresser, pour éduquer, pour nous permettre de grandir. C'est utile pour les enfants, mais nous aussi, on a à grandir jusqu'au bout, n'est-ce pas ? La maturité, on l'atteint pas très très vite, n'est-ce pas ? Pour éduquer et pour que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Pour la vie, n'est-ce pas ? Pour construire l'être humain, l'homme de Dieu, le chrétien, afin qu'il puisse vivre correctement et avoir une action utile et réjouissante et bénie. Tout ça, c'est l'effet de la Bible. Mais alors, dans la pratique, me direz-vous, à quoi ça correspond ? Je crois qu'il y a une grande importance que, dans notre bonne vieille tradition protestante, et c'est encore le cas, on en est étonné, dans les familles protestantes, la Bible, n'est-ce pas, l'Écriture seule, la sola scriptura, comme disaient les réformateurs, est toute sa place, n'est-ce pas ? La lecture de la Bible en famille, la lecture de la Bible personnelle. Et bien sûr, c'est le rôle de l'Église aussi à montrer toute cette importance. C'est le rôle de l'école du dimanche, etc. Mais que ça soit l'Écriture, la Sainte Écriture, les écrits sacrés qui, depuis le plus jeune âge, conduisent notre réflexion et aussi notre vie. Dans notre vie personnelle déjà, et puis dans la vie de ceux que Dieu nous a confiés. Donc vous voyez, ce problème de transmission de la foi est vraiment un tout. Et même si nous ne nous sentons guère capables, nous pouvons vivre cette foi. C'est ça le plus important. Même dans les moments terribles de détresse, c'est justement là que la qualité de la foi va se prouver. Et puis nous pouvons entretenir cette relation d'amour, de considération avec ceux que Dieu nous a confiés et centrer toute notre préoccupation sur la Bible, sur la Sainte Écriture. Et il faut bien se souvenir que Paul disait ça alors qu'il était un vieillard dans la détresse, malgré son immense foi, son immense espérance quand même. Il vivait des moments très difficiles. Alors, cette parole est vraiment pour chacun de nous, que nous ayons, que nous vivions des moments plus faciles ou difficiles. Voilà ce qui va donner un sens à notre vie. Assumer vraiment la responsabilité, notre responsabilité à l'égard de ceux que Dieu nous a confiés. Prions ensemble. Seigneur, merci encore pour cet exemple étonnant et qui nous frappe tellement de l'apôtre Paul et aussi de sa relation particulière avec Timothée. Merci Seigneur pour tous ceux que tu nous as confiés, soit nos propres enfants, soit des personnes avec qui nous sommes plus proches. Seigneur, nous avons tous une responsabilité à cet égard. Garde-nous de toute hypocrisie, Seigneur, de cette piété de façade qui est si destructrice et auquel les autres sont très sensibles. Donne-nous une foi sincère et une foi fondée dans les Écritures. Merci aussi pour tous ceux, Seigneur, qui nous ont précédés et qui nous ont parlé de toi. Merci de cette parole que tu leur as confiée, de leur exemple aussi. Seigneur, si ta parole nous dit que la persécution et la souffrance fait partie aussi de la vie, et notamment de la vie avec toi, aide-nous à supporter ces épreuves, à regarder plus haut. Seigneur, que nous puissions en ressortir éprouvés, mais aussi approuvés par toi. Je te prie, Seigneur, pour cette communauté, que tu puisses la bénir, bénir chacun, du plus petit jusqu'au plus âgé. Bénir les responsables aussi, le pasteur, la famille pastorale particulièrement. Merci pour les richesses de ta parole. Merci surtout pour ta patience envers nous, ton amour inlassable. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions en Jésus-Christ. Amen.